Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Alors que les pays développés font face à une crise économique aiguë, doublée aux États-Unis de graves troubles politiques, le continent africain semble échapper au cataclysme mondial. La pandémie de Covid-19 y touche pour l'instant moins de monde qu'ailleurs. Cependant, des mesures de confinement ont été imposées et les conséquences économiques directes et indirectes sont là. Selon le FMI, le continent africain devrait enregistrer en 2020 une baisse de son produit intérieur brut de 1,5%, du jamais vu depuis 50 ans. Alors que veut dire cette projection? Faut-il y croire? Les progrès réalisés par les économies africaines ces dernières années sont-ils compromis? La pauvreté, le chômage gagnent-ils du terrain? Les économies africaines doivent-elles continuer à s'endetter? Voilà quelques-unes des questions dont nous allons débattre avec deux personnalités africaine, deux grandes voix du monde économique africain. Bonjour Carlos Lopez.
Bonjour.
Carlos Lopez, vous êtes en ligne depuis le Cap, où vous enseignez à l'école Mandela pour l'administration publique de l'université de la ville. Vous êtes le haut représentant de l'Union africaine pour les partenariats avec l'Europe et vous êtes l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Avec vous dans cette émission, en ligne de Dakar, Salif Cherussi, bonjour.
Bonjour.
Salif Cherussi, vous êtes professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez été conseiller économique du président de la République avec rang de ministre. Et au cours de cette émission, des reportages, évidemment, nous rejoindrons Claire Bargelès à Johannesburg, William Delesseux à Dakar et Sébastien Nemeth à Nairobi au Kenya. Au moment où nous parlons, Carlos Lopez, est-ce que le continent africain subit un choc économique de la même violence que l'Europe ou les États-Unis?
Je pense que nous pouvons dire que du point de vue sanitaire, l'Afrique semble être quelque part moins affectée que d'autres régions du monde, mais du point de vue économique, c'est tout le contraire. Je pense qu'on se prépare vraiment à une tempête parfaite parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui précèdent le Covid et qui sont certainement exagérés du point de vue de l'optimisme qu'on portait à la croissance africaine, qui sont maintenant durement affectés par la crise. Et donc, nous allons avoir vraiment une année extrêmement difficile.
Qu'est-ce que vous appelez une tempête parfaite?
Nous avons un ensemble d'éléments qui sont structurels. Par exemple, le fait que les prix des matières premières baissent à des niveaux historiques. Nous avons les monnaies africaines qui sont dépréciées comme on n'a jamais vu. Nous avons une fuite de capitaux qui est considérable depuis le début de cette année. Nous avons aussi, bien sûr, le problème de la dette qui est exacerbé par la contrepartie locale qui devient beaucoup plus chère et donc bouffe une bonne partie de l'espace fiscal existant. Et donc, tous ces éléments sont des éléments plutôt de longue haleine. On ne va pas les régler rapidement. Et ajouter à cela la consommation interne qui est très détériorée par les confinements et les différentes mesures de distancement social. Et donc, nous savons que deux tiers de la croissance africaine viennent de la consommation interne. Donc, nous avons vraiment un élément interne domestique qui est terrible. Et donc, à tout ceci, nous devons ajouter les effets climatiques. Nous avons l'invasion des criquets, nous avons la sécheresse en Afrique australe, les inondations en Afrique orientale, nous avons les problèmes du Sahel. Donc vous voyez, donc c'est l'ensemble des éléments qui nous amènent à une crise sanitaire, économique et aussi de sécurité alimentaire.
Vous êtes vraiment très pessimiste, Carlos Lopez, Salif Cherussi, vous l'êtes autant de pessimisme à Dakar qu'au Cap?
Disons que je ne suis pas aussi pessimiste. Je crois que le choc va être extrêmement difficile. Il l'est déjà. Mais si on considère que depuis ces dernières années, la pluie est revenue pour des pays où très souvent le secteur formel, public et privé est relativement faible et qu'ils ne consomment quasiment pas d'électricité, l'essentiel du travail se faisant à la main très souvent.
Vous parlez de l'agriculture.
L'agriculture et du secteur moderne également. Le secteur moderne subit beaucoup de coûts, mais cela ne va pas se ressentir de la même façon que dans les pays occidentaux. Comme je l'ai dit, l'essentiel du travail est manufacturé, c'est à la main pour l'essentiel. Donc le choc qui peut venir de la consommation d'électricité, empêchant les secteurs de fonctionner, nous ne le subissons pas de la même façon que dans un pays occidental. L'agriculture, la pluie est revenue. Des dispositions sont prises dans certains pays, notamment pour le Sénégal, pour le retour à la terre, pour s'occuper de ça, ça va se faire. Mais fondamentalement, Carlos a raison. C'est des pays extravertis où beaucoup de choses, y compris dans la nourriture, les équipements, les médicaments, le matériel technique, et la nourriture également, une grande partie de la nourriture vient de l'extérieur, ça se ressent déjà. Au Sénégal, nous avons des émeutes dans des endroits où on ne l'espérait nullement. La ville religieuse de Touba, la ville religieuse de Tiwaouane et à Dakar, les jeunes sont sortis dans la rue pour demander qu'on mette fin au confinement relatif et au couvre-feu. Mais le choc, il est déjà perceptible de par la difficulté de continuer à importer, l'arrêt de la production, c'est-à-dire le choc véritablement de l'offre. Il se ressent dans tout le secteur formel, disons. La baisse de la consommation, ça se ressent, et des investissements. Un pays qui compte beaucoup sur l'extérieur, qui reçoit énormément de l'extérieur. Le choc de la demande, la chute de la demande de produits venant de l'étranger sur lesquels l'État tire les impôts. Mais tout ça fait que nous sommes dans une véritable crise. Mais je ne crois pas du tout. Je ne suis pas du tout aussi pessimiste que le Fonds monétaire international. Je crois que ces pays se ressaisiront et le travail devant être fait devra se faire et les choses reprendront leur cours, mais peut-être sur une dizaine d'années, pour retrouver la normale.
Carlos Lopez, je faisais allusion justement à ce chiffre du FMI qui prévoit pour 2020 une baisse du produit intérieur brut de 1,5% pour le continent africain, alors que beaucoup de pays en Afrique nous avaient habitués à des taux de croissance de 6, 7, 8% ces dernières années, même un peu plus. Que dites-vous de ce chiffre ?
Vous savez, dans le prognostic du FMI de janvier, juste avant le Covid, c'était prévu que sur les 16 meilleures performances économiques du monde, ou plutôt sur les 30 meilleures performances économiques du monde, 16 seraient africaines. C'était aussi prévu qu'à peu près 21 pays africains auraient une croissance de 5% ou plus, ce qui représente à peu près la moitié de la population du continent. C'est une performance remarquable. Et donc, d'un coup, nous avons un pronostic qui va dans le sens opposé et qui prévoit une catastrophe en Afrique. Moi, je ne suis pas catastrophiste. Par contre, je pense que la proposition qui est faite par beaucoup de leaders africains, selon laquelle nous avons une certaine résilience, et je reconnais un peu Chérif dans la même ligne, ne va pas se matérialiser parce que le choc, cette fois-ci, n'est pas un choc spécifiquement africain, mais plutôt mondial. Et malheureusement, vu les problèmes structurels de nos économies, nous avons par exemple 35 pays africains dans la catégorie de la plus grande dépendance des matières premières pour les exportations, c'est-à-dire 80% de dépendance. Et nous avons des prix du pétrole qui représentent 40% des exportations africaines qui sont au plus bas. Nous avons tous les problèmes de logistique pour les matières premières périssables. Nous avons des difficultés de tout ordre dans la Ligue des métaux parce que les prix chutent avec l'exception de l'or. Donc si nous regardons toutes les externalités, cette fois-ci, je pense que l'FMI risque même d'être un tout petit peu optimiste avec le pronostic de la crise. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que nous avons des éléments d'externalité qui contribuent beaucoup pour notre produit intérieur brut, même si dans la vie des gens, le PIB ne se reflète pas toujours parce que nous avons beaucoup d'informalités.
Alors justement, on va parler informalité avec un premier reportage. Carlos Lopez, c'est peut-être un des symboles du coup porté par le Covid-19 aux économies africaines. Waiyaki Way, la principale route traversant Nairobi, la capitale kényane, n'a plus de bouchons. La capitale est la quatrième ville la plus embouteillée au monde en temps normal. Pourtant, le trafic a disparu à cause du ralentissement économique. Peter Mwirore est un hawker, un vendeur à la sauvette. En 40 ans de métier, il n'a jamais vu ça. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Sébastien Nemeth à Nairobi.
C'est peut-être l'un des symboles du coup porté par le Covid-19 à l'économie kényane. Waiyaki Way, la principale route traversant Nairobi, n'a plus de bouchons. La capitale est la quatrième ville la plus embouteillée du monde. Pourtant, le trafic a disparu à cause du ralentissement économique. Peter Mwirore est un hawker, un vendeur à la sauvette. En 40 ans de métier, il n'a jamais vu ça.
We have hard times now.
Il explique qu'à Nairobi, tout le monde déteste les bouchons, sauf les vendeurs comme lui, qui profitent des ralentissements pour vendre divers objets aux conducteurs coincés. Or, désormais, la circulation est fluide et les rares chauffeurs qui l'abordent ont peur de l'approcher. Il ne gagne plus que 2 $ par jour et va devoir tenter sa chance dans des garages, stations essence ou aux abords des parkings. Un hélicoptère passe dans le ciel au-dessus des barrages tenus par la police en périphérie de Nairobi. Les autorités ont quadrillé la capitale. Ça a été l'une des mesures les plus fortes prises par le gouvernement. Un confinement partiel des zones les plus touchées par le virus, soit Nairobi et 3 comtés de la côte kényane. James est chauffeur de taxi-moto. Il est dépité. Les lignes de bus ne viennent plus jusqu'ici, dit-il. Il n'a donc plus de clients à transporter vers la banlieue. Sa seule opportunité, attendre quelqu'un de désespéré, prêt à prendre le risque de contourner les barrages par des chemins de terre connus seulement par les locaux. La police laisse passer ceux qui fournissent des services essentiels. C'est le cas des transports de nourriture. James Jenga conduit un poids lourd rempli de choux et pommes de terre. Il vient d'entrer dans Nairobi. Ça s'est bien passé, raconte-t-il. La police a contrôlé son identité, son chargement, puis l'a laissé passer. Pour lui, ce genre de chargement doit pouvoir circuler, sinon les gens mourront de faim. En visite sur place, le ministre adjoint de l'Intérieur est venu vérifier l'efficacité des barrages. Karanja Kibicho comprend la grogne des habitants, mais pour lui, le gouvernement n'avait pas le choix. Il faut contenir les malades dans Nairobi, dit-il, pour ne pas infecter les personnes âgées installées pour la plupart hors de la ville. Soit on se plie à la règle et on survit, soit on la viole et nous mourrons ensemble, déclare-t-il. Le gouvernement a même appliqué le confinement à un quartier de Nairobi, Eastleigh, qui concentre un grand nombre de cas. Depuis un mois, les barrages encerclent la zone. Aboubakar Hassan, vendeur de produits d'hygiène, connaît des fins de semaine difficiles. Ça fait un mois qu'il n'a pas pu quitter le quartier. Avec le confinement, il reçoit très peu de clients de l'extérieur et ne peut plus se rendre en ville faire des livraisons. Il réussit encore à payer son employé, mais pour ça, il puise dans ses économies. Il supplie donc le gouvernement de lever les barrières. La situation est tellement dure que des manifestations éclatent régulièrement. Abdoulou Mamayo y participe. Ce chauffeur de bus a perdu son emploi car la ligne reliant le centre ne fonctionne plus. Il a dû trouver un travail informel pour survivre. Il fallait bien trouver une solution, se lamente-t-il. Alors désormais, il aide les gens à se garer, ce qui lui rapporte 1 ou 2 $ par jour. Il explique désormais vivre avec la faim. Si le confinement est prolongé, ça nous tuera, dit-il.
Un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs signé Sébastien Nemeth à Nairobi. Carlos Lopez, on entend les mots faim, on entend les mots plus d'activité, on entend ces gens du secteur informel qui sont habitués à passer à travers les gouttes, à survivre avec très peu malheureusement. Est-ce que c'est un symptôme, un symbole de la dureté de cette crise économique dont vous nous parlez depuis le début de l'émission pour l'Afrique ?
Les modèles actuels de politique et de gouvernance ne sont pas vraiment en mesure de traiter la précarité à grande échelle. D'autant plus qu'elle est associée très souvent à l'emploi informel, aux conditions de vie dans les bidonvilles que nous connaissons avec beaucoup, beaucoup de vulnérabilité. Et je pense que la pandémie Covid-19 montre comment ces conditions, qui étaient déjà préexistantes, hein, rendent les points d'ancrage urbains des économies africaines très vulnérables, avec ces fermetures forcées, des mesures de distanciation sociale, les interventions à grande échelle. Et étant donné que les citadins dépendent de revenus quotidiens très modestes dans les coins et recoins de l'économie informelle, le fait de ne pas pouvoir faire du commerce, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir interagir socialement, échanger, est une condamnation à la misère. Et des années de progrès nous montrent la fragilité de la croissance africaine. Et ces indicateurs socio-économiques peuvent être inversés dans un clin d'œil. Et les discussions actuelles de politique sur la reprise ou la relance après Covid montrent encore une fois que nous ne sommes pas en train d'attaquer les problèmes structurels, les problèmes de fond. Et c'est ces problèmes-là qui vont pouvoir donner de la résilience à long terme.
Salif Cherifsi, vous partagez ce diagnostic sur la fragilité urbaine de l'Afrique, sur la fragilité du développement économique par les villes ?
Elle est là, disons, en général, on la rencontre un peu partout, mais il y a quand même des différences entre l'Afrique du Sud, le Kenya et le Sénégal. Au Sénégal, dans une large mesure, l'informel est en train de travailler, puisque rien n'est interdit pendant la journée. Les gens s'activent beaucoup, mais comme c'est une économie dont le développement est calé sur un rythme européen, américain ou chinois, avec les importations provenant de ces pays, y compris de la Turquie et de l'Inde, l'arrêt brusque justement de l'importation de ces biens cause un énorme problème au secteur informel.
Alors, vous insistez depuis le début de cette émission sur ce problème des importations qui ne se font plus. De quels produits exactement parlez-vous, Chérif Salifsi?
Mais quasiment tous les biens et services, les machines-outils, les équipements, les médicaments, l'habillement, l'industrie textile est complètement mise à terre avec les importations d'habits. Et depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est les produits de seconde main. Toutes les rues de Dakar, c'est des parcs à automobiles importés ou des hangars pour des meubles, des téléviseurs, etc. Il n'y a que ça comme type d'activité dans le pays. Le véritable secteur industriel, il est insignifiant. Et si disons que des études récentes ont montré que les entreprises 2040 qu'on peut considérer comme entreprises véritablement industrielles, les 90% sont des filiales de sociétés mères installées à l'extérieur. Celles-là souffrent effectivement, c'est les grands moulins, etc. Mais si on parle de l'économie vraiment sénégalaise, détenue par les Sénégalais, je ne dis pas que les autres ne souffrent pas, mais c'est ça qui fait que donc on a cette difficulté d'un côté de ces grandes usines qui importait de la farine de l'extérieur pour faire le lait, mais surtout le secteur productif dans l'informel qui ne fonctionne plus. Mais à Dakar, c'est très différent, par exemple, de Johannesburg, du Cap, etc. Vous sortez dans les rues, les gens sont en train de travailler, les quincailleries fonctionnent, les réparateurs d'automobiles fonctionnent, tout le monde fonctionne. Mais c'est l'importation qui est bloquée, qui aggrave effectivement la difficulté dans ce pays. Et c'est très sérieux. Et sinon, il n'y aurait pas eu de révolte.
Carlos Lopez, est-ce que vous entendez ce que dit Chérif Salifsi? Est-ce que ce phénomène de l'importation totale des biens de consommation, de production, est valable pour tous les pays africains, quels qu'ils soient?
Oui, je pense que quelque part, tous les pays souffrent de cela, même si la capacité industrielle de certains est plus étoffée que, par exemple, celle du Sénégal. Je pense qu'en général, nous avons un problème déjà de chaînes de valeur qui sont interrompues par la crise. Nous avons un problème de logistique, puisqu'il y a une réduction drastique du trafic maritime, je crois de l'ordre de 30% dans le monde. Et donc l'Afrique est dans la pointe un peu des routes maritimes, pas au centre. Nous avons un problème d'arrêt presque total de trafic aérien, puisque maintenant nous sommes à moins d'1% du nombre de vols qui existaient avant le Covid. Et donc il n'y a pas de circulation. Et comme nous avons une production industrielle qui est relativement faible, c'est pourquoi d'ailleurs Je disais qu'il faut attaquer aux problèmes structurels, c'est-à-dire industrialiser l'Afrique. Nous avons, bien sûr, une conséquence de ce type de crise mondiale beaucoup plus profond que dans d'autres régions du monde.
Alors, on retourne sur le terrain avec un nouveau reportage. L'Afrique du Sud connaît un chômage de masse structurel. Les chiffres officiels le situent en général autour de 29% de la population active. Mais la réalité est souvent encore plus dégradée et l'impact de la crise, née de la lutte contre la pandémie de Covid-19, menace d'aggraver la situation. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Claire Bargelès à Johannesburg.
Judith et son amie ont installé leurs chaises sur le trottoir du township d'Alexandra. Désœuvrées, elles attendent que le temps passe.
On travaillait avant, mais plus maintenant. J'avais un petit boulot dans le recyclage, mais avec le confinement, c'est fini. Donc je reste là, toute la journée.
Comme Judith, Cello n'a pas encore reçu de compensation du gouvernement. Depuis mars, son entreprise n'a plus de travaux d'installation électrique à lui donner et il ne touche plus rien de son salaire de 500 euros. Il est venu faire la queue une nouvelle fois devant les bureaux de la caisse d'allocation chômage.
À cause du coronavirus, beaucoup d'endroits ont fermé. Donc je n'ai plus de contrat, mais j'ai des enfants et j'ai des factures à payer. Et quand on vient ici avec les bons documents pour récupérer des aides pour lesquelles notre entreprise a contribué, c'est impossible. Je ne sais même pas si je retrouverai mon travail ensuite, car on dépend d'autres entreprises et de leurs besoins.
Malgré des difficultés, la caisse d'allocation a jusqu'à présent versé près de 730 millions d'euros à plus de 2,5 millions de travailleurs. Le gouvernement a aussi mis en place des mesures pour soutenir les entreprises et beaucoup ont pu reprendre leur activité depuis lundi, ce qui a permis à près de 8 millions de personnes supplémentaires de retourner au travail. Cette levée des restrictions est primordiale pour Koskou Vadia, directeur de l'organisation patronale Boussa.
Ce sont surtout les plus petites entreprises qui sont à risque. C'est pour ça qu'il est très important de relancer l'économie aussi vite que possible, sans bien sûr compromettre la santé des habitants.
Dans le secteur du tourisme, par exemple, les petits acteurs qui reposent sur les voyageurs locaux sont très pessimistes. Annie Pelser tient une maison d'hôtes dans le nord du pays et elle ne sait pas combien de temps elle pourra continuer à faire travailler ses 6 employés.
On sait que cette crise ne va pas être maîtrisée facilement. Et même après, les gens ne vont pas directement sauter dans leur voiture et dépenser pour voyager. Nos banques nous ont accordé 3 mois de report de paiement pour nos crédits. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tous avoir de très gros ennuis.
Difficile aussi de combiner reprise d'activité et santé des employés dans certains secteurs. Des foyers d'infection sont apparus dans plusieurs mines, comme celle de Poneng, possession d'AngloGold Ashanti, qui a dû fermer lorsqu'un quart des travailleurs ont été testés positifs. D'autre part, la crise fait s'effondrer de grosses entreprises qui étaient déjà en difficulté, comme le géant de la distribution Edcon ou la compagnie publique South African Airways. Pour l'économiste Kevin Links, le pays aura du mal à se relever.
La situation est désormais très inquiétante. La croissance pour cette année pourrait décliner de 9 à 10 %. Cela signifie que nous allons observer un nouveau bond du taux de chômage. On estime que sur 12 mois, l'Afrique du Sud devrait perdre plus ou moins 2,1 millions d'emplois. Donc, une fois que l'on aura contrôlé l'épidémie, tous les efforts du gouvernement se porteront sûrement sur le redémarrage de la croissance et la création d'emplois.
Les agences de notation comme Standard & Poor's ne sont pas beaucoup plus optimistes et s'inquiètent du poids que les mesures font peser sur la situation financière du pays.
Un reportage signé Claire Bargelès dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI où nous parlons des économies africaines face à la pandémie de Covid-19, de l'impact très lourd de cette pandémie sur ces économies avec deux invités, Carlos Lopez qui est au Cap en Afrique du Sud et Chérif Salifsi qui est à Dakar au Sénégal. Carlos Lopez, me retourne naturellement vers vous, ce reportage il vient de près de chez vous, de Johannesburg. On parle de 11% de baisse du produit intérieur brut sud-africain cette année. Comment est-ce que l'Afrique du Sud peut se relever d'un tel choc alors qu'elle fait face à des problèmes structurels qu'on a évoqués depuis le début de ce reportage, avec un chômage de masse, des inégalités très fortes? Comment est-ce que l'Afrique du Sud peut se relever de ça?
Je pense que l'Afrique du Sud a des ressources internes qu'elle n'a jamais utilisées jusqu'à maintenant. Et peut-être cette crise, c'est le paradoxe, peut-être que cette crise va réveiller un peu la classe dirigeante à faire le nécessaire. Nous avons un pays avec énorme liquidité, avec une bourse de valeur qui dépasse les 1000 milliards de dollars, avec une situation où la banque centrale est privée plutôt que publique, même s'il y a une participation publique. Et donc, elle pourrait faire des financements à l'économie, de la liquidité à l'économie, comme les pays les plus dotés de la planète. Mais elle ne le fait pas parce que les politiques monétaires sont plutôt pour favoriser la protection du système financier qui représente 25% du PIB, mais qui ne touche pas aux gens. Donc c'est une économie complètement asymétrique où la couche dirigeante dépend un peu pour ses impôts, etc., pour ses dépenses de ce secteur financier. Et ce secteur financier qui est de niveau mondial, de classe mondiale, est complètement déconnecté de l'économie réelle. Donc si on ne crée pas des changements profonds dans la politique économique de l'Afrique du Sud, on ne sera jamais capable de réduire le chômage qui grimpe chaque année. Donc, nous avons plus de chômage actuellement qu'il y a 5 ans. Et avec le Covid, ça va s'aggraver.
Pour venir en aide aux pays africains, les pays riches ont lancé l'idée de moratoire, de report des remboursements de dette ou des intérêts de la dette. Les pays du G7 ont d'ailleurs confirmé cette semaine ce que le G20 avait déjà annoncé au mois d'avril. Les pays les plus pauvres n'auraient pas à rembourser d'intérêts de la dette d'ici à la fin de l'année. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour ces pays africains endettés, Salif Chérif Sy?
Oui, je crois que c'est des initiatives compte tenu du choc, et je précise que lorsque j'ai dit que chaque pays ne ressentira pas le choc de la même façon, et cela ne veut pas dire que ce ne sera pas très sévère selon les pays. Et ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, comme Carlos vient de le dire, mais j'ai dit d'ailleurs au début que ça nous prendrait peut-être 10 ans pour nous remettre sur nos pieds. La crise est extrêmement sévère.
Dix ans pour se remettre de la crise?
C'est mon avis. Les destructions sont considérables. Entreprises et structures de production à l'arrêt. Confinement, le confinement et ses dégâts. La chute de la demande de produits de l'extérieur pour des pays qui vivent quasiment de l'extérieur. Baisse des transferts reçus des migrants. Vous avez baisse d'importation, exportation, baisse des réserves, des recettes de l'État, chute de l'activité. Pauvreté, inégalité, c'est très grave la Suisse, c'est la crise que nos pays subissent. Et de ce point de vue, le soulagement par rapport à l'endettement extérieur, moi ça me paraît indispensable.
Mais on parle de la dette publique bilatérale là, pour l'instant, la dette privée.
Oui, je suis sûr ça. Si on considère toutes ces conséquences, et tous ces effets, tous ces impacts, je crois qu'il faut trouver un moyen de soulager les pays relativement à leur dette, justement. Et ça, c'est le sens de notre combat ici, en tout cas pour beaucoup de secteurs, beaucoup de groupes. Peu importe, moratoire ou allègement de la dette, le moratoire, c'est dommage. Moratoire, on vous soulage simplement pour 1 ou 2 années, vous revenez. Je crois qu'il faut une annulation de la dette et permettre aux pays de se réendetter. Ça aussi, je l'assume. Les pays devront se réendetter. Il faut que les gouvernements se réendettent pour faire fonctionner l'économie. C'est pour ça que je suis favorable à de telles mesures. Mais se réendetter autrement, ça suffit d'emprunter et d'en faire ce qu'on veut. Je crois que ce n'est plus possible. Il faut se réendetter avec une grande responsabilité en respectant tout ce qui est lié à la dette, le droit de la dette, respecter ses engagements. Et l'économie de la dette, orienter les ressources reçues vers les secteurs pressentis et la gestion de la dette qui implique les sociétés civiles. Sans cela, ça ne sert à rien de reconstituer, encore une fois, le stock de la dette est sans fin.
Carlos Lopez, il faut annuler les dettes et autoriser les États africains à se réendetter après?
Je pense qu'il y a une nuance à introduire. Le moratoire dont on parle, à mon avis, est largement suffisant. C'est une entrée en matière. Ça ne concerne pas l'ensemble des pays africains, ça concerne une partie des pays africains. Et je pense que de toutes les façons, c'est des montants vraiment ridicules du point de vue global. L'ensemble de la dette africaine est l'équivalent de la dette des Pays-Bas, pour que les gens puissent avoir une mesure de comparaison. notre service de la dette par rapport au PIB, qui est la mesure qui permet de savoir si on a vraiment la capacité de répondre aux défis de la dette, est relativement modeste, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de recettes fiscales.
C'est pourquoi recettes budgétaires, oui.
Fiscales,
oui.
Pour les raisons que vient d'invoquer Chérif, réduire la moratoire seulement pour cette année et pour un certain nombre de pays, et on a choisi ces pays parce que c'est des pays qui représentent dans la totalité très peu de dettes, donc on parle de maximum 15 milliards, c'est vraiment rien du tout. Et je pense que ce qu'il faut effectivement, c'est d'attaquer le problème de la dette sur trois fronts. Le premier front, c'est un moratoire qui doit être plus long pour l'ensemble des pays africains, pas seulement pour un certain nombre, pour l'ensemble des pays africains. Un moratoire ne veut pas dire qu'on ne va pas payer la dette, mais plutôt qu'on va pousser un peu les échéances. Et donc, je pense que c'est vraiment tout à fait justifié qu'on le fasse pour l'ensemble du continent. Le deuxième front, c'est de pardonner la dette des pays fragiles, parce qu'ils sont attaqués par le terrorisme, toutes sortes de difficultés. Et maintenant, avec toutes ces fragilités, ils ont aussi le Covid. Et finalement, pour la dette commerciale, il faut restructurer la dette. C'est pas une dette, on va pas dire au privé, on va pas vous payer la dette. Mais la réalité, c'est que nous payons des dettes commerciales à des taux très élevés, jusqu'à 6-7%. Quand la plupart des économies des pays du Nord, des pays riches, maintenant, à cause justement du Covid, ont la possibilité d'emprunter à 0%, même à des taux négatifs, comme la Grande-Bretagne vient de lancer l'année dernière ses bonds à des taux négatifs. Donc vous voyez, c'est vraiment pas juste que les pays qui ont le plus besoin de liquidités et de difficultés de tout ordre soient ceux qui paient à 6-7% et ceux qui sont plus riches paye à 0% au négatif.
Carlos Lopez, vous êtes un homme de contact, vous avez beaucoup de relations, vous avez été l'homme de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, vous êtes le représentant de l'Union africaine pour les partenariats avec l'Europe. Quand vous en parlez à vos interlocuteurs étrangers, européens ou américains, qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Et je crois qu'il y a une division parmi ces partenaires. Il y a un certain nombre de partenaires qui sont très favorables à ce que je viens de dire, notamment le président Macron et les signes que nous recevons dans un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, sont très positifs à cet égard. Mais il y a d'autres qui sont contre. Donc même la décision du G20 d'avoir une moratoire seulement pour cette année et pour un certain nombre de pays, c'était parce qu'il y avait un certain nombre de pays du G20 qui ne voulaient pas aller plus loin, mais la plupart des pays étaient prêts à aller plus loin. Donc je pense que les gens comprennent que le moment est différent. C'est une crise globale. Elle n'a pas été provoquée par mauvaise gestion en Afrique. Même le problème de la dette n'est pas un problème. La dette publique n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Tous les pays sont endettés actuellement, les pays riches beaucoup plus que l'Afrique. Et donc, il faut trouver des réponses systémiques. Et je crois qu'il y a un certain nombre de personnalités qui viennent de signer une lettre au G20 en demandant vraiment que des efforts soient faits au-delà de ce qui a été annoncé.
On retourne sur le terrain avec un nouveau reportage. Comme en Europe, le coronavirus a frappé au cœur l'activité touristique africaine. C'est le cas au Sénégal, qui est très important pour l'économie du pays. Le secteur touristique, il représente 10% du produit intérieur brut. À Dakar, les restaurants ont pu rouvrir sous certaines conditions. Distanciation sociale, nombre limité de clients. Depuis quelques jours, les hôtels, eux, restent fermés. Tous les acteurs du secteur attendent et espèrent la reprise. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé William Delesseux à Dakar.
Face à la place de l'indépendance, le Pullman Teranga de Dakar est une institution. L'hôtel 5 étoiles appartient au groupe français Accor. Il est fermé depuis fin mars, date de départ des derniers clients. À l'intérieur, toutes les lumières sont éteintes, le bâtiment est vide. Antoine Payan, directeur de l'hôtel.
C'est terrible de le voir comme ça. Là, ça fait 2 mois qu'on se promène quotidiennement à l'intérieur pour venir vérifier que tout va bien, dans le noir. Et c'est assez douloureux quand même de passer tous les jours dans ces conditions-là. Vivement l'ouverture.
Vous avez combien de chambres d'habitude qui sont occupées ici ?
Alors on a 247 chambres, dont une quinzaine de suites, qui sont malheureusement actuellement toutes fermées.
On est devant la réception de l'hôtel, évidemment il n'y a plus personne, des bâches ont été mises sur les meubles. C'est la première fois que vous voyez l'hôtel comme ça et le restaurant comme ça?
Exactement, c'est la première fois que l'hôtel est complètement arrêté.
Une situation inédite et des conséquences économiques très lourdes pour l'établissement.
Pas de chiffre d'affaires, mais par contre des charges. On a continué à payer les salaires de nos employés, on continue à payer les frais qui ne sont incompressibles tous les mois sur l'hôtel. On espère que l'activité va reprendre quand même assez rapidement, surtout cet automne, le plus vite possible, et dans des conditions, on va pas dire comme avant la crise, mais qui soient quand même beaucoup plus normales que ce qu'on vit actuellement.
L'hôtel aura besoin d'une semaine pour préparer une éventuelle réouverture. Les chambres devront être remises en état au dernier étage, où Senou Diop, un des techniciens du lieu, inspecte cette suite qui a vu sur l'océan.
Tu ne vois rien que la poussière, vraiment... Au moment où on démarrera, ça va être vraiment difficile.
Ce restaurant de la Corniche a pu rouvrir partiellement. Mouktar Sar, le maître d'hôtel, parcourt la terrasse.
On essaye de respecter la distanciation. On prend une table, on met une table au milieu qu'on n'utilise pas. On nous demande 1 mètre, mais nous on essaye de faire 3 mètres maximum pour gérer la sécurité. Ce qu'on a présentement, presque c'est un tiers de ce qu'on avait, de la clientèle qu'on avait avant la pandémie.
C'est moins de chiffre d'affaires pour vous?
Moins de chiffre d'affaires. C'est un peu catastrophe, comme je vous dis.
Est-ce que vous avez suffisamment de trésorerie? Vous pouvez payer vos fournisseurs? Enfin, tout se passe bien?
Là, on négocie avec. C'est-à-dire, on nous livre aujourd'hui, on travaille jusqu'à la semaine prochaine et on paye.
L'État a mobilisé l'équivalent de près de 20 millions d'euros pour aider le secteur hôtelier et touristique à repartir après la crise. Une crise loin d'être terminée. L'épidémie continue de gagner du terrain au Sénégal.
Un reportage signé William de Lesse à Dakar. Chérif Salif Sy, ce reportage, il vous touche de près puisque c'est la réalité que vous vivez. Vous êtes confiné à Dakar. Est-ce que le tourisme est aussi affecté qu'il l'est partout ailleurs au Sénégal?
Ah, il est très affecté, il est très très affecté. Quand on parle du tourisme, on y ajoute également les artisans d'art. Je crois que la situation est intenable, elle est difficile, même si certains hôtels sont privilégiés en étant réquisitionnés par l'État. Mais globalement, la situation est très sérieuse. Réquisitionnée pour les malades du Covid. Hein.
Oui, le gouvernement veut affecter 20 millions d'euros pour aider le secteur touristique. C'est suffisant pour retenir le choc?
À mon avis, c'est pas suffisant. Sinon, on n'aurait pas tous ces métiers d'art et certains hôteliers qui continuent à se plaindre. Mais c'est un effort, je crois que c'est un effort important. Il y a aussi une enveloppe importante pour alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises de ce secteur, évidemment, de disposer des crédits et trésoreries et des prêts rapidement auprès des financiers. Mais c'est insuffisant. Le Sénégal est un pays très touristique, pas au niveau du Kenya ou de l'Afrique du Sud, mais c'est un secteur qui est en train de souffrir péniblement. Et surtout, j'insiste là-dessus, les artisans d'art. L'artisanat souffre beaucoup de ces problèmes.
Carlos Lopez, vous disiez tout à l'heure que l'Afrique du Sud avait les moyens intérieurs de répondre à cette crise, que l'Afrique du Sud a un secteur financier très puissant, de classe mondiale. Ça n'est pas le cas du reste de l'Afrique. Même le Nigeria a des difficultés avec son secteur financier, même si c'est un pays très, très, très riche potentiellement, très, très, très important. Est-ce que l'Afrique a les moyens de faire face à cette crise?
Effectivement, ça soulève un problème plus profond que vous avez touché, Chérif aussi a mentionné, qui est le problème de soutien aux entreprises en difficulté, aux secteurs économiques en difficulté. C'est clair que nous n'avons pas, dans la plupart des pays africains, la capacité de lancer des programmes de relance qui soient, disons, à la mesure des nécessités. Même si l'Afrique du Sud a annoncé un programme de 23 milliards de dollars, qui correspond à 7% de son PIB, c'est-à-dire au même niveau que les économies les plus fortes des pays de l'OCDE, ça reste une exception et je ne sais pas si ça sera suffisant. Mais pour la plupart des pays, le secteur aérien est complètement arrêté. Sa reprise va être extrêmement difficile parce que les compagnies aériennes sont à bout de souffle et beaucoup ne voleront plus. Nous avons déjà beaucoup d'exemples de dépôts de bilan. Et sans une aide massive étatique, ces compagnies auront beaucoup de difficultés pour pouvoir reprendre. Il y a quelques petites exceptions comme Ethiopian Airlines parce qu'ils sont reconvertis dans le cargo et ont profité un peu de la demande Covid. Mais en général, le trafic aérien est très lié aux possibilités touristiques. Et donc nous avons devant nous un scénario d'enfer pour le secteur touristique qui représente 10% des emplois formels en Afrique.
Alors Carlos Lopez, vous évoquiez à l'instant le plan de relance du gouvernement sud-africain. On va en reparler à travers un reportage de Claire Bargelès à Johannesburg. Les agences de notation ont beau avoir placé la note de la dette sud-africaine en catégorie spéculative, cela ne décourage pas le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui continue à développer le projet sur lequel il a été élu, attirer près de 90 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans, un plan, vous l'avez rappelé, Carlos Lopez, plus que jamais nécessaire. Écoutez ce reportage de Claire Bargelès à Johannesburg.
Le chef de l'État a déjà débloqué depuis le début de la pandémie près de 24 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les citoyens les plus en difficulté. Mais Cyril Ramaphosa pense déjà à l'après-crise, alors que la vague d'infection devrait toucher le pays d'ici septembre.
Alors que nous sommes pleinement concentrés sur le combat contre la pandémie et les efforts pour sauver des vies, nous travaillons aussi sur le redressement de notre économie. Cette reprise passera notamment par des investissements massifs dans nos infrastructures, ainsi que leur consolidation, ce qui mobilisera des ressources publiques et privées à grande échelle.
Le président n'a pas donné plus de détails quant à ce programme, qui n'aurait sans doute pas déplu à l'économiste Keynes. Mais le trésor général de l'ANC, Paul Machatilé, s'est lui avancé sur un chiffre lors d'une conférence de presse virtuelle.
Après des discussions avec le secteur privé et des échanges avec les banques multilatérales de développement, le cabinet est désormais sur le point d'approuver un programme d'investissement dans les infrastructures de plus de 18 milliards d'euros. L'effort sera mis sur le ferroviaire, les ports, l'énergie, le haut débit, l'eau, les installations sanitaires et les logements.
Des porteurs de projets ont eu l'occasion de présenter leurs propositions lors de séances virtuelles la semaine dernière, mais il reste encore à voir si l'Afrique du Sud sera capable d'être suffisamment attractive, selon Peter Leon, avocat et spécialiste des questions d'investissement sur le continent.
D'un point de vue économique et politique, c'est un pas dans la bonne direction. Mais la question reste de savoir qui va financer tout cela. Le gouvernement a nommé des experts économiques pour tenter d'attirer à travers le monde les investissements étrangers. Mais on ne sait pas encore à quel point cela fonctionne. Et l'ANC a toujours été contre l'emprunt auprès des institutions de Bretton Woods. Le pays peut prétendre, sans condition, à un financement d'urgence contre le Covid-19 de près de 3,8 milliards d'euros du FMI. Par contre, pour emprunter beaucoup plus, pour de gros projets, il y aura des conditions à respecter et cela donnera lieu à des débats intéressants car l'ANC s'y est toujours opposée.
Le plan final devrait être dévoilé par le président le 23 juin.
Un reportage signé Claire Bargelès à Johannesburg. Au vu du cap, Carlos Lopez, est-ce que ce que tente le gouvernement sud-africain peut être généralisé à toute l'Afrique ?
J'espère que beaucoup de pays auront la capacité de relancer des infrastructures. Ça a beaucoup contribué à la consommation interne et à la croissance des économies africaines. Et c'est vraiment nécessaire parce que nous avons un déficit d'infrastructures qui est considérable, qui a déjà été l'objet de beaucoup de politiques à travers le continent, au niveau de chaque pays. Et donc, c'est vraiment un besoin qui est fondamental pour l'industrialisation du continent, notamment les infrastructures de transport et les infrastructures liées au secteur énergétique. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, je pense que la politique de vouloir promouvoir les investissements étrangers est un peu risible. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Afrique du Sud peut elle-même mobiliser des ressources internes qu'elle ne le fait pas. Un exemple d'école, c'est la plus grande entreprise africaine qui est Naspers, qui est une entreprise dans le domaine des technologies et des médias. Naspers est propriétaire de 30% de la plus grande entreprise chinoise de technologie, Tencent. Rien que cette participation à Tencent est l'équivalent de 120 milliards de dollars. Et la bourse sud-africaine a autorisé, et le gouvernement bien sûr, à travers ses régulateurs, le transfert de Naspers, capital principal, vers les Pays-Bas pour un montant de 100 milliards de dollars, ce qui a fait de Naspers et sa succursale aux Pays-Bas la plus grande entreprise de technologie d'Europe du jour au lendemain. Et ça a été fait il y a 3 mois. Donc c'est vraiment un scandale qu'on puisse autoriser 100 milliards de dollars de transfert de l'Afrique du Sud vers les Pays-Bas et qu'on essaye d'avoir un programme de mobilisation d'investissement étranger de 80 milliards sur 5 ans.
Les capitaux, Chérif Salif Sy, les capitaux étrangers, les capitaux africains fuient l'Afrique ?
En ce moment, oui. Je crois qu'en ce moment, c'est clair. Hein, il y a un reflux de l'investissement sur lequel les partenaires extérieurs s'étaient engagés. Mais également pour un pays comme le Sénégal qui comptait sur le lancement. Le Sénégal et la Mauritanie sur le lancement de l'exploitation réellement de ressources gazières et pétrolières. On voit que les contrats sont suspendus. Je crois que c'est des raisons de s'inquiéter. C'est pourquoi Carlos a raison. Et ici, c'est la demande la plus forte, en tout cas, ici, c'est une réflexion sur le développement économique et social, véritablement, dans un contexte où, comme vous le dites, les pays africains sont subordonnés à des intérêts extérieurs trop importants et depuis trop longtemps. Je précise que cette détermination de l'extérieur, elle fait des siècles pour l'Afrique. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est tout cela qu'il faut changer. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement l'arrêt du développement et du partenariat avec le reste du monde. Ça n'a pas de sens. À mon avis, il faut 4 conditions, si tu permets.
Rapidement, chéri, parce qu'on arrive au bout de l'émission.
Voilà, 4 conditions qui permettent véritablement le progrès économique et social, l'indépendance politique, l'indépendance monétaire, le progrès économique et social et les transformations sociales. Un autre aspect, c'est restaurer les capacités autonomes des populations, restaurer les capacités financières et surtout réfléchir sur les questions monétaires. Enfin, il faut réintroduire le débat sur la relance de l'industrialisation du continent. Étant entendu que s'industrialiser, ce n'est pas seulement ouvrir des manufactures. Industrialiser, c'est une réforme véritable qui s'appuie sur la formation, l'éducation, l'enseignement. Et enfin, le dernier point, c'est une réforme des institutions et de l'État de sorte qu'il existe une égalité de transformation, de traitement qui s'appuie sur des valeurs républicaines.
Chérif Salif Sy, c'est un vrai programme politique que vous êtes en train de dérouler. On en parlera dans une autre émission, on relancera le débat. Il y aura bien sûr beaucoup de commentaires, mais cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Chérif Salif Sy à Dakar, Carlos Lopez au Cap, en Afrique du Sud, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.